Merci. Bonjour. Bienvenue ce matin, que vous soyez en présentiel ou en streaming. On vous voit. Et puis, au nom de toute l'équipe de préparation de ce culte, je vous souhaite la bienvenue. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, stressé, joyeux, inquiet, accablé, souffrant, serein, découragé ou paisible. Vous avez votre place ici à l'église évangélique de Mérin pour ce culte. Ce moment où nous nous arrêtons dans notre semaine pour dire à Dieu que nous souhaitons être en sa présence, nous rapprocher davantage de lui, faire une pause. Faire une pause tout en avançant. Je vous invite à la prière. Seigneur, le groupe Louange a nous interprété un chant dans lequel les paroles disent « Viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre le ciel, descends sur nous. Feu éternel, embrase-nous. Touche la terre, descends sur nous. Amour du Père, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. De ta lumière, envahis-nous. » Seigneur, c'est notre prière pour ce matin, que dans ce moment de culte, on puisse simplement être là et que tu puisses être parmi nous. Nous t'invitons. En ton nom. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'onction d'huile. C'est le thème du culte. Il y a quelques enfants dans la salle, mais ma question s'adresse à tout le monde. Savez-vous ce que c'est l'onction d'huile? Alors, je vous laisse me donner des éléments de réponse. Y a-t-il des idées? Ah oui, tu serais d'accord de... J'ai vu un geste. Sur la tête. J'ai entendu ça. C'est juste? Ok, quelque chose sur la tête, oui. Autre chose? Tu mets l'huile sur la tête. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Les anciens de notre église, vous savez ce que c'est l'onction d'huile? Rassurez-moi. Alors, selon le dictionnaire, c'est un rituel, un geste, qui consiste à appliquer de l'huile sur une personne. Et dans l'Ancien Testament, c'était aussi sur des choses. L'onction d'huile, c'est parmi les outils précieux que Dieu nous a donnés pour nous connecter à lui, comme la prière, comme la lecture de sa parole, comme la Sainte Cène. Hein, ce sont des rituels, mais il y a aussi l'onction d'huile. On n'en parle pas très souvent dans l'Église. Et puis, en fait, aujourd'hui, le souhait, c'était d'approfondir ce thème avec quelques témoignages et aussi un enseignement, un court enseignement sur ce thème. J'avais envie de préciser que l'onction d'huile, ce n'est pas un acte qui relève d'une quelque chose de magique. Ça tient plutôt à l'assurance de l'accompagnement de la personne qui demande l'onction d'huile dans sa souffrance. C'est une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance. Je demande ta présence, ta puissance et que ta volonté soit faite dans ma vie. » Donc ça signifie vouloir être en contact avec l'Esprit de Dieu, être enduit de sa présence et de sa puissance. Est-ce que vous aimez les histoires? Chouette, parce que moi j'aime les raconter. Et puis, oui? Oui? Oui, pour consacrer, exactement, pour sanctifier quelqu'un. Merci Denise. Je voulais pas trop non plus donner d'infos parce qu'il y a Philippe. Et puis, vous pouvez aussi. Ah oui, super. Parfait. Merci Denise. Nickel. Donc ce matin, vous allez avoir un culte un petit peu en plusieurs moments, avec justement des témoignages. Il y en a d'autres, hein, des témoignages d'onction d'huile. Ça ne se résume pas seulement à ce qui va être dit ce matin. Et je me réjouis d'entendre aussi les expériences des uns et des autres. En tout cas, que ça soit un moment qui vous lance un peu sur le sujet. Donc voilà, j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée. Et puis, ça concerne un petit peu ce thème. Donc j'étais dans un camp. Le fameux camp de la Drôme qui a lieu avec les églises de la Frée en été. Donc c'était il y a déjà quelques années, je ne sais plus tellement, mais mes enfants étaient petits. C'était donc fin juillet en été. Je faisais partie de l'équipe organisatrice du camp. Et puis tous les matins, on avait un moment d'échange sur le déroulement de la journée, bien sûr, le côté logistique, mais surtout et aussi des moments de prière. Moment de prière pour les campeurs, pour le déroulement, mais aussi les uns pour les autres. Et puis, il se trouve que ce matin-là, eh bien, nous avons parlé de Daniel et de Joseph dans la Bible. Est-ce que vous voyez le point commun entre ces deux personnages? Ils ont été emprisonnés. Ils étaient dans des pays étrangers. Il savait interpréter des songes, exactement. Et en fait, c'est ce qui m'avait touchée, c'est qu'en fait, Dieu leur parlait dans leurs rêves, pendant la nuit. Et puis, c'est quelque chose qui m'a touchée. Puis moi, je disais, mais en fait, moi aussi, j'aimerais bien que Dieu me parle dans mes rêves. J'aimerais bien qu'il me dise quelque chose. Et donc, je me rappelle avoir dit à l'équipe, ben, moi aussi, j'aimerais bien que Dieu me parle clairement dans mes rêves. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une parole très claire dans ma tête. Huile ce qui doit être huilé. Ah. La parole était tellement claire que je savais que c'était un message pour moi. Par contre, franchement, huiler quoi ? Mon vélo ? Enfin, pour moi, l'huile, c'est voilà, pour graisser, c'est pour éviter de vieillir. Hein, on masse avec de l'huile. J'étais en camping-car au camp, et puis ceux qui me connaissent savent que des fois, ils tombent en panne, hein, ou que j'ai déjà vécu une panne, et je me disais, bon, est-ce que Dieu est en train de me dire qu'il faudrait que je m'occupe de ça pour éviter de tomber une deuxième fois en panne sur l'aire d'autoroute, en plein chassé croisé juillet-août, d'enfumer tous les gens qui sont en train de faire leur pause. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. Donc, bref, j'étais un peu perplexe. Alors, je suis allée à ma réunion du matin avec les organisateurs du camp et puis je leur ai dit, OK, huiler, mais huiler quoi? Et puis, ils m'ont dit, ben, attends, prie, et puis peut-être Dieu va te montrer de quoi il s'agit. Alors, moi, je trouvais plutôt marrant Dieu parce qu'en fait, il m'a donné une parole, mais que je ne comprenais pas. Alors, peut-être que j'aurais dû être plus précise dans ma demande. Mais voilà, la journée se passe et en fin d'après-midi, j'étais assise sous les tentes, pour ceux qui connaissent le camp de la Drôme, sur les tentes, là où on traînasse, vers 17h c'était. Et puis tout à coup, on a vu un monsieur arriver sur le chemin. Le souvenir que j'en ai, c'est que ce monsieur était agité, il était inquiet, un peu ébouriffé comme ça, pas tranquille, le regard un peu furtif, fatigué, et puis des cernes, voilà, bien visibles. Et puis, un peu dans son agitation, il nous a dit, c'est ici le camp chrétien? Et puis, ben oui, ceux qui étaient là, on a dit, oui, c'est là. Et puis, ben voilà, je lui ai dit, est-ce qu'on peut vous aider? Et c'est là qu'il nous a raconté que la veille, donc le samedi, c'était, enfin non, je sais pas, c'était peut-être pas un samedi, il est allé à une brocante de livres. Et puis qu'il avait été attiré par un livre. Dans tout ce tas de livres, il y en a un qui attirait son regard. Et d'emblée, il sentait qu'il ne devait pas le prendre, ni s'en approcher, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Et donc, il a acheté ce livre. Et c'était un livre qui parlait de choses destructrices, d'esprit. Un livre tout le contraire de la Bible, en fait, qui parle d'amour. Et ce monsieur l'a acheté et l'a amené chez lui. Et c'est comme s'il savait qu'il ne devait pas le faire, mais il était attiré, il a lu ce livre. Et plus il lisait, plus il était agité, moins il était serein. Et en fait, voilà, en fait, c'est un peu la définition d'une bêtise, hein. C'est faire quelque chose alors qu'on sait qu'on ne doit pas le faire. Et puis en fait, il nous a dit, je ne suis pas bien depuis que j'ai lu ce livre, il y a quelque chose qui, de l'ordre du spirituel qui va pas. Et puis j'ai besoin que vous priez pour moi. Et là, un des pasteurs du camp, qui était comme par hasard assis à côté de moi, me regarde et me dit, Séverine, veux-tu huiler ce qui doit être huilé? Je pense que ce monsieur a besoin d'une onction d'huile. Et là, moi, je me dis, quoi, moi? Je ne suis pas pasteur, ça se passe comment? Qui suis-je, en fait? Pour huiler, on fait comment? Alors, le pasteur est allé chercher de l'huile et on s'est assis avec ce monsieur qui a confessé ses fautes, qui a dit, voilà, je demande pardon. Il a demandé pardon à Dieu d'avoir désobéi en lisant ce livre qui était destructeur et je lui ai déposé de l'huile sur le front. Et en fait, ce qui était étonnant, c'est que c'était même pas bizarre de toucher le front d'un inconnu. Enfin, c'est quand même un geste intime de toucher le front de quelqu'un. Je touche le front de mes enfants, de ma famille, mais là... Et j'ai senti qu'à ce moment-là, Dieu il m'associait à lui pour bénir ce monsieur et que quelque part, il me bénissait aussi. Et il m'a dit ce jour-là, « Séverine, non seulement je peux te parler clairement, mais je veux aussi te bénir toi. » Et donc, en vivant cette onction d'huile avec ce monsieur, dont je ne connais même pas le prénom, j'ai pu vivre quelque chose d'intime avec ceux qui étaient là, mais vraiment et surtout avec Dieu. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a invité à manger avec nous ce jour-là, au camp, vu que c'était quasiment l'heure du souper, qu'on lui a donné les coordonnées de l'église de Cré, là où il habitait, et que nous avons appelé le pasteur de l'église en disant « si jamais, il y a peut-être un monsieur qui va venir ». Mais toujours est-il que ce monsieur est reparti sur son chemin, paisible, et guéri de ses tourments. Et nous, un peu émus. Voilà. Alors, je vous propose un temps de louange avant de passer à la suite.
Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur ce matin. Comme vous le savez, la Bible est la parole vivante du Seigneur. Laissons la parole faire autorité dans notre vie, qu'elle ouvre la porte à une transformation profonde. Jésus dit que la parole est la vérité, elle éclaire les choix quotidiens, façonne le cœur et libère ce qui enferme. S'appuyer sur la parole, c'est bâtir sa vie sur un socle qui ne se fissure pas, même dans les tempêtes. Alors chantons, ta parole est la vérité. Le micro ne marche pas. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Amen, amen. Loué soit l'Éternel, ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, amen.
a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par éternel, parlons qu'aujourd'hui, ta parole nous donne la vie.
Car dès
qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par éternel, parlons encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par éternel, parlons encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, sa main l'a accompli. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi.
Dans Luc 4, 18, Jésus dans la synagogue lit le rouleau du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors chantons, relevez le faible. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur. T'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais quand même parler. Je sais, vous m'entendez, c'est bon? Alors, appelez son âme à sortir de la torpeur, à se recentrer sur Dieu. Quand tout semble endormi ou routinier, en demandant au Saint-Esprit de souffler à nouveau en lisant la parole autrement, renouer avec la reconnaissance, compter les bénédictions de Dieu et repérer où Dieu agit encore dans les petites choses. S'entourer de frères et sœurs pour prier ou pour partager permet à Dieu d'utiliser les autres pour ranimer ce qui faiblit. La communion fraternelle est l'un des réveils de l'âme. Chantons « Éveille-toi mon âme ».
Je propose qu'on garde encore les enfants encore un tout petit moment. Et puis ensuite, après ce moment, je vous laisse partir pour vos groupes en bas. Tu veux dire quelque chose, Philippe? Si jamais le Slido est affiché, si vous avez déjà des questions. Alors, j'aimerais inviter Christiane, qui se trouve être ma maman, à venir me rejoindre sur ces chaises. Merci déjà d'être là, parce que je sais que ce n'est pas facile. je te donne ça. Quand...
Bonjour d'abord.
Si, normalement, il fonctionne. Si tu le mets tout près de toi.
Comme ça?
Oui. Okay. Alors, maman, quand je t'ai parlé du fait que j'allais coordonner ce culte sur l'onction d'huile, en fait, tu m'as dit que j'avais moi-même vécu une onction. Et là, j'avoue avoir été très surprise parce qu'en fait, j'en ai aucun souvenir. Et puis, c'est là que tu m'as raconté le contexte de cette onction. Et puis, tu m'as dit que tu étais d'accord de partager ce témoignage aujourd'hui. Et puis, du coup, d'expliquer un peu le contexte et puis de répondre à quelques questions. Donc, merci, parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, assez intime, hein, quand on parle d'onction d'huile. Alors, maman, est-ce que tu pourrais expliquer le contexte dans lequel j'ai reçu cette onction?
Alors, ça s'est passé il y a plus de 40 ans, donc on va remonter le temps. Tu avais 4 ans.
Plus près.
Donc, nous remontons le temps à plus de 40 ans en arrière. Séverine avait 4 ans. Elle avait fait plusieurs complications pulmonaires, bronches, et le médecin suspectait qu'elle avait la mucoviscidose. Mais il faut situer aussi le contexte. Donc, il fallait accepter, il fallait vivre avec cette éventuelle maladie. Mais parallèlement, avec Claude, mon mari, son papa, nous revenions de presque 4 ans de formation des États-Unis où Claude s'est formé comme pilote mécanicien pour servir au sein de la mission Wycliffe comme pilote pour les traducteurs. La mission Wycliffe, sa mission particulière, c'est la traduction de la Bible dans les langues locales. Donc, un sacré défi. Et là, le médecin suspectait cette mycoviscidose, nous ordonne un test et il nous avait dit que si le test était positif, il n'était pas question de partir. Et là, une porte qui nous claque au nez après 4 ans d'investissement, de renoncement, coûts financiers, enfin. Et puis là, surtout, la maladie de notre fille. Beaucoup de pourquoi. Pourquoi maintenant? Pas pourquoi nous, mais pourquoi maintenant? Est-ce qu'on a poussé des portes qui n'étaient pas ouvertes? Mais non, humainement parlant, ce n'était pas possible d'avoir forcé des portes. Donc le médecin, il y a le premier test. Résultat était positif. Mais le médecin n'était pas satisfait, il recommande un deuxième test. Et le deuxième, c'est précis, ce n'est pas des tests douloureux, mais c'est pénible de voir ma fille suer comme ça pour ce test. Et puis le deuxième était 80-90% négatif. Donc il y avait un 10-20% de doute. Et puis là, avec mon mari, on chemine, on pleure. On s'est dit, bon, on va, Seigneur, donne-nous la force d'accompagner notre fille dans cette maladie et puis d'accepter de ne pas partir. Parce que là, le médecin avait été clair. Il n'y avait pas les soins nécessaires en Afrique où on partait au Cameroun. On aurait pu forcer cette porte, hein, partir quand même. Mais c'était inconcevable de partir avec un enfant malade comme ça, en n'ayant pas les soins sur place. Donc, dans nos pourquoi, dans nos questionnements, on aborde les conseillers pour un temps de prière. Et dans les échanges que nous avons eus avec les conseillers, il en est venu tout naturellement de que le temps de prière sera accompagné de l'onction d'huile. Non pour ta guérison, parce que nous ne l'avons pas demandé, mais pour une bénédiction et la protection sur toi. C'était ta santé qui primait. Et je me souviens de deux personnes, dont une est encore parmi nous, c'est Charlabel Piguet. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Et il y avait Francis Dufour. Donc ils sont venus à la maison et on a prié pour toi, il y a eu l'onction d'huile. Et après, il y a eu un troisième test, parce que le médecin voulait. Nous, dans cette prière, on avait demandé, c'était notre seule exigence, entre guillemets, envers Dieu, c'est qu'il soit soit entièrement positif ou entièrement négatif. En quelque sorte, que ta volonté soit faite. Je reviendrai là-dessus. Le troisième test a lieu. Suspense. Entièrement négatif. Bien sûr, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'on est parti. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'on en a ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors, je dis nous parce que mon mari était encore là. C'est qu'on savait, et je le sais toujours, que nos vies sont entre ses mains. Quand je prie, quand nous prions, que ta volonté soit faite, ce n'est pas une phrase à la légère. Et on peut le dire à la légère. Mais ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui tiens la barre. Et pour nous, de renoncer, d'accepter sa maladie, tu ne l'as pas eu finalement, mais d'accepter de ne pas partir en mission, c'était énorme. Et d'accepter que Dieu, à un moment donné, avec la barre, il avait décidé de... Mais il fallait l'accepter. Voilà.
J'avais plusieurs questions, mais il y a déjà répondu. Je vais quand même les dire. Qu'as-tu demandé à Dieu par cette onction d'huile? Donc, je crois que c'était que ta volonté soit faite. Pourquoi avoir demandé une onction d'huile et pas seulement la prière du pasteur ou de l'équipe?
Alors, initialement, avec papa, on avait demandé un temps de prière avec les conseillers. Ça ne s'est pas fait en église. Les conseillers sont venus à la maison. Donc ça s'est fait dans l'intimité. Je crois que c'est venu dans les échanges qu'on a eus avec eux, c'est venu tout naturel que ce moment de prière sera accompagné de l'onction d'huile. C'était un complément.
Est-ce que tu te rappelles comment tu as vécu ce moment d'onction? Tu as parlé du processus, mais ce moment-là,
oui,
je sais que c'était il y a 40 quelques années.
Je nous vois encore. Dans l'appartement, je sais où j'étais assise, je sais où Charlabel était assis, où Claude était assis, où tu étais sur les genoux de ton papa. Il y a des choses très précises et puis d'autres, mais je ne sais plus. On était sereins. Parce qu'avec papa, c'était un sacré débat. Donc ensemble, on avait pleuré, on avait posé nos pourquoi, et on a cheminé dans ce temps d'incertitude. Donc, quand est venu ce moment de prière et d'onction d'huile, on était prêt, positif ou négatif. Donc, serein.
Ouais. Et pour terminer, est-ce que ce moment t'a apporté quelque chose dans ta relation avec Dieu et ou avec tes frères et sœurs, avec l'aspect communautaire?
Bien sûr, c'est un moment très fort. C'est un moment charnière dans notre vie. Une relation avec Dieu, ben oui, elle s'est approfondie, mais comme je l'ai dit, je savais que nos vies, ma vie est entre ses mains. Et quand je dis que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est pas une phrase à dire à la légère.
Merci.
C'est accepter que c'est lui qui tient le manche à balai.
La barre. Merci. Merci, maman. Alors les enfants, on vous laisse maintenant rejoindre les groupes. J'espère que vous allez pouvoir en parler aussi de ce que vous avez entendu. Et Denise et Nicolas ont préparé une matinée avec vous. Alors soyez bénis. Philippe va nous apporter un petit message sur le thème de l'onction d'huile. Je vais vous lire le texte qu'il a choisi, qui se trouve dans Jacques 5, les versets 13 à 16. Je lis dans la version Nouveau Français Courant. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux ? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade ? Qu'on appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout. Et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité.
Merci Séverine. Merci beaucoup Christiane. Quelques mots de témoignage, très vite. Moi, je suis tombé, comme beaucoup d'entre vous, dans la marmite évangélique, dans mon enfance. J'ai grandi dans une formidable église évangélique en ville de Genève, où je n'ai jamais entendu parler de ce geste. Et puis, en 1996-96, en démarrant mes études en théologie, nous avions eu comme devoir pratique très vite de mémoriser la lettre de Jacques. Et je tombe sur ce texte, littéralement, je tombe dessus. En étant conscient de l'avoir probablement jamais lu, ou alors tenu à distance, et puis surtout jamais vraiment pratiqué. Et puis, à partir de 1999, en embrassant un service pastoral, je me suis retrouvé devant des frères et sœurs dans la souffrance, me demandant la pratique de ce geste. Et depuis, je n'ai cessé de le pratiquer ici, plusieurs fois, jamais seul, toujours au moins avec un ou deux membres du conseil ou d'autres personnes. J'ai appris à découvrir le sens de ce geste, à le valoriser et à l'apprécier. On n'est pas dans quelque chose de magique, tu l'as dit. Puis en même temps, on est dans quelque chose de fort. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui l'a institué, contrairement au baptême et à la scène que nous prendrons tout à l'heure. Mais ce texte est dans nos Bibles. Et je crois en sa valeur et plus encore en la valeur de celui qui l'a institué. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? C'est ainsi que Jacques commence son petit paragraphe. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Dans certaines de nos Bibles, on a « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» C'est un peu réducteur, parce que le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot « asthénéo », qui parfois veut dire « malade » au sens de maladie. On le trouve 18 fois dans le Nouveau Testament, mais on trouve aussi 15 occurrences dans le Nouveau Testament de ce verbe, de ce mot, pour parler de faiblesse morale, spirituelle, un épuisement intérieur, un effondrement, particulièrement dans les épîtres, ce verbe est utilisé. Et dans ces deux optiques, malade au sens de maladie ou malade au sens de faiblesse morale, spirituelle, dans ces deux optiques, ceux et celles qui sont malades ou affaiblis ont besoin d'aide. Et ce sont celles et ceux qui sont capables d'amener cette aide, on ne va pas dire fort, mais celles et ceux qui peuvent le faire à ce moment-là, qui sont appelés à les aider. Et ça, c'est le sens de la communauté. Nous nous portons, nous nous supportons, nous nous élevons, nous nous bénissons les uns les autres. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Qu'on appelle les anciens de l'Église. Les brebis qui sont blessées, qui sont malades, qui sont épuisées, qui sont submergées d'inquiétude, doivent pouvoir aller vers leur berger, vers leur bergère, qui intercéderont pour elles, qui demanderont à Dieu rétablissement, renouvellement. Et c'est l'un des essentiels du travail pastoral auquel est pleinement associé le conseil. Un pasteur, c'est un berger. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Il y a des moments où ça va bien, gloire à Dieu. Puis il y a des moments où ça coince sérieusement. Maladie, affaiblissement, effondrement. Les pasteurs, ils sont là pour vous. Ceux-ci prieront pour lui et ils feront une onction d'huile sur sa tête. Je relève ici l'importance première de la prière. Ceux-ci prieront pour lui, ça vient d'abord. Importance première de la prière qui traverse la Bible de bout en bout. L'onction d'huile, elle vient ensuite. Elle accompagne ce temps de prière. Mais elle ne désigne pas une quelconque cérémonie symbolique ou mystique. La remarque de Denise était très juste tout à l'heure. On trouve dans l'Ancien Testament des références à une onction. On le faisait spécifiquement pour les rois. On le faisait spécifiquement pour les souverains sacrificateurs. Une fois, on le fait pour un prophète. Dans le Nouveau Testament, il y a un renversement. C'est Santoche dans la préparation qui le soulignait. Autant dans l'Ancien Testament, on a l'impression d'un geste pour les élites, pour les confirmer dans leur poste d'élite, de roi, de grand prêtre. Autant dans le Nouveau Testament, on a l'impression que c'est juste pour vous et moi. Des petits bons hommes, des petites bonnes femmes qui parfois s'en tirent, puis qui parfois s'en tirent pas. Et que ce geste, il nous est commandé de façon tout à fait simple et fraternelle. Il n'y a rien de mystique. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le verbe « oindre » à l'eipho décrit le fait d'oindre d'huile la tête de quelqu'un ou d'embaumer encore, ou d'oindre les pieds, ou d'oindre les malades de médicaments. C'est le même verbe qui est utilisé, aleifo. Métaphoriquement, l'image des anciens oignant d'huile un croyant malade ou affaibli traduit notre responsabilité en tant que conseil de stimuler, d'encourager, de fortifier, de rafraîchir. David a exprimé le rétablissement spirituel que Dieu, dans sa bienveillance, lui a accordé avec les mots suivants. Psaume 23, verset 5. « Tu oins d'huile ma tête. » Et cela, on le fait dans notre texte « Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. » Parce que tout véritable encouragement doit s'accorder avec ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Sinon, c'est du sable entre nos doigts. Si je vous encourage en vous disant « tu verras, ça va aller mieux », ça a quelle valeur les copains ? Sérieux. Mais si on prend nos encouragements dans les Écritures que Thierry a valorisées tout à l'heure, si on prend nos encouragements dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu fait, alors on est dans la vérité des choses. Faire quelque chose au nom du Seigneur, c'est faire ce que le Seigneur aurait fait dans ces circonstances. Prier au nom du Seigneur, c'est discerner et demander ce que le Seigneur voudrait. Exercer un ministère, faire un geste au nom du Seigneur, c'est le faire en servant comme lui, comme il le ferait lui. Une telle prière, faite avec foi, sauvera la personne malade. La personne malade ou affaiblie, on retrouve le même verbe. Et ici, le terme « sauver », il a son importance. C'est un terme grec qui se dit « sozo », qui ne se rapporte pas forcément à la guérison physique, mais qui se rapporte à l'idée d'aider, de rétablir, de restaurer. Et le Seigneur la remettra debout. Vous voyez, les prières, ce ne sont que des canaux. Remarquez ici que c'est le Seigneur qui remet debout, pas qui soigne, pas qui guérit. Il peut le faire. Mais la promesse qui est associée au geste, c'est que le Seigneur nous remet debout. Nos crises spirituelles sont parfois à la fois la cause et le résultat du péché. D'où l'importance, et je finis là, de la confession. Reconnaissez donc, en fin de compte, quand on arrive au bout de la réflexion, reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres, afin d'être guéris. Alors je sais, nous on est évangéliques, on n'est pas catholiques. On ne va pas se confesser auprès du prêtre. Mais nous sommes des grands prêtres les uns pour les autres. Et nous avons la possibilité de reconnaître nos péchés les uns avec les autres. Je trouve ça assez solennel de réfléchir à nos péchés avant de demander une restauration, une guérison qui peut aboutir ou qui peut-être n'aboutira pas, mais sera juste un relèvement en attendant la vie éternelle. Mais dans cette attente, nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Reconnaître nos péchés. De l'importance donc de la remise en question, de l'importance de la redevabilité, de l'importance de la confiance réciproque. Reconnaître ses péchés les uns envers les autres, ça ne se fait pas comme ça au tout venant. On s'assoit, on réfléchit, on se demande à qui on parle, on s'assure que la confiance et la confidentialité sont là. Mais il y a quelqu'un à qui je peux dire, tu sais, moi, dans ma vie, il y a des trucs qui ne vont pas. Et ça pèse. Et je ne voudrais pas que ça pèse dans l'œuvre que Dieu a envie de faire dans ma vie. Je reconnais mes péchés. Si vous reconnaissez vos péchés, dit l'apôtre Jean, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute injustice. Et je trouve ça génial. Ce n'est pas un Dieu qui tient les comptes. Il pardonne et il purifie. Et nous pouvons le vivre dans les relations que nous entretenons les uns envers les autres. Amen.
Justement, à propos de relations qu'on peut entretenir les uns avec les autres, j'invite Santosh et Joanne, qui vont aussi donner un témoignage en dialogue de ce qu'ils ont vécu.
Bonjour à tous. Bon, waouh, c'était impressionnant, ces premiers témoignages. Santosh, moi j'ai une question à te poser, parce qu'on est là devant. Qu'est-ce qui te pousse, ou qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce témoignage devant l'Église? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce témoignage et sur ta présence ce matin, là devant tout le monde?
Bonjour à tous. Alors, j'ai aussi mes petites notes. Je pense en effet que c'est un sujet qui est important, qui est l'onction d'huile, d'autant plus que c'est un thème qui est vraiment par rapport à la communauté, et ce n'est pas juste un texte qui parle de la guérison, c'est un texte qui met en termes relationnels aussi, et c'est pour ça que je trouvais que c'était important que je puisse aussi donner mon témoignage ce matin. Et si je ne me trompe pas, le thème pour l'année 2026 pour l'Église de Meyrin, c'est la reconnaissance, et je trouvais que ça avait vraiment du sens pour ça. En effet, il y avait ce verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Moi, je ne sais pas, Alex, Thierry, si on vous posait la question, ou en tout cas, si moi, on me pose la question, en tant que médecin, je ne dirais pas d'aller faire l'onction d'huile, je dirais « Allez voir votre médecin. » S'il y en a, à Genève, ça va, il y en a. Il y en a beaucoup. Si je dis ça, c'est que, pour moi, c'est un texte important, mais je pense que c'est important de rester aussi les pieds sur terre, de ne pas être hyper spirituel sur un sujet tellement sensible, tellement important, que c'est important d'abord de faire les choses avec bon sens et d'aller voir votre médecin. Et c'est ce que j'ai fait. L'année passée, je suis allé voir mon médecin, et parmi ces médecins, un a découvert chez moi un cancer. Mais heureusement, c'était un cancer à un stade initial. Et par la grâce de Dieu, en septembre, j'ai pu être opéré dans de très bonnes conditions. Et donc, voilà, j'ai passé par un moment qui n'était pas toujours simple. Mais il y a ce texte de Jacques qui, pour moi, est un texte important dont j'avais déjà entendu parler dans l'église précédente où j'étais. C'est des choses qui se faisaient. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Non seulement je suis allé voir mon médecin, mais je suis aussi allé voir mon pasteur, Philippe. Et en discutant avec lui, en reprenant le texte de Jacques, ça m'a beaucoup éclairé, comme il vient de le dire aujourd'hui, que ce texte sur le thème malade, c'est un terme qui regroupe la maladie physique, mais la maladie psychique aussi, et la maladie spirituelle. Et je me dis, voilà, moi je ne suis pas un grand théologien, loin de là, je prends ça avec simplicité, et je me dis, mais c'est merveilleux. Dieu nous offre la prière et l'onction d'huile quand on est en bas, quand on est souffrant, quelle que soit l'origine. Et dans ce texte, c'est dit qu'il fasse appel aux anciens de l'Église pour que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Donc en été 2025, j'ai appelé Philippe. Et j'ai demandé l'onction d'huile aussi en présence de Joanne. Je me dis, c'est toujours bien d'avoir le président avec nous. Et je trouve intéressant que dans ce texte, c'est mentionné que c'est au malade de faire la demande. On ne lui impose pas quelque chose. C'est notre propre responsabilité et je trouve que c'est important de se le rappeler. Demander quoi ? Avec qui et comment ? Demander quoi ? Comme Christiane, personnellement, je n'ai pas demandé la guérison. J'aurais pu le faire, mais je n'ai pas eu la conviction de le faire à ce moment-là. Pour moi, ce qui était important, c'est que Dieu puisse être avec moi pendant l'opération et après l'opération. Évidemment, avant que j'aie la paix. Mais pendant l'opération et après qu'il n'y ait pas de complications, pas de métastases et autres. Et c'est ce que j'ai vraiment demandé. Avec qui ? Je vous l'ai dit, avec le président. C'est toujours bien d'avoir le président dans sa poche et de l'autre côté, d'avoir le pasteur. J'aurais pu demander au trésorier, mais ça, je ne l'ai pas fait. Le président et le pasteur, c'était déjà beaucoup. Et cette notion qui est un peu dérangeante, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et donc, comment ? Personnellement, je n'ai pas pris que j'ai eu ce cancer en lien avec un péché précis. Mais pour moi, c'était hyper important de me dire, OK, c'est un stop. C'est une occasion de se remettre en question. Un temps, c'est pour ça qu'avant l'onction d'huile, une semaine avant, on s'est vu avec Philippe et on a eu un temps de prière, d'échange et de confession. Et pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, il y a ce texte en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. On peut se dire, mais comme si la prière n'était pas suffisante. C'est ce que je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi l'onction d'huile ? Et je me suis dit, évidemment, c'est comme Philippe l'a dit, ce n'est pas l'huile en tant que telle, même si dans l'Ancien Testament, il y avait vraiment une vertu thérapeutique. Dans le Nouveau Testament, c'est un symbole vraiment du Saint-Esprit. Mais je l'ai fait aussi parce que je pensais que c'était un geste qui était incarné et un geste qui est partagé. Et je pense que ces gestes-là, ben on les a un peu perdus dans notre tradition réformée évangélique. Les orthodoxes, les catholiques, ils font beaucoup plus ce genre de rites qui nous irritent peut-être, mais je pense que ce sont des rites importants parce que ça nous permet d'être en connexion les uns avec les autres. Et aussi, il y a quelque chose qui est incarné dans notre corps. Et quand on souffre dans notre corps, c'est important. Vous rappelez Jésus, quand il guérit l'aveugle, il touche les yeux. Ça a vraiment du sens. Et donc, une semaine avant cette rencontre, ben, j'ai eu ce temps d'échange avec Philippe. Et puis après, il y a eu une décision de fixer une date avec toi, Joanne, et avec toi, Philippe. Je n'ai pas voulu le faire à la maison. J'avais à cœur de le faire ici, en bas, à l'église. Donc après un temps d'échange, tu étais là, Joanne, et de prière, Philippe m'a oint d'huile. Mais je suis venu à cette rencontre, je ne m'attendais pas à quelque chose de spécial sur le moment, je m'attendais vraiment à Dieu pour l'après. Pour moi, c'est ça qui était important, c'est que Dieu m'accompagne après, durant l'opération et après. Et quand Philippe m'a oint d'huile, je vous avoue que ça m'a fait vraiment quelque chose de très étrange. C'est difficile de le décrire avec des mots, mais j'ai vraiment senti la présence de Dieu et l'amour de Dieu couler vraiment sur moi. Dans le psaume 23, après j'ai repensé, tu l'as cité Philippe, c'est « Tu oins d'huile et ma coupe déborde ». Et je peux vraiment vous dire que ma coupe a vraiment débordé. Alors vous connaissez Joanne, vous me connaissez peut-être aussi, on ne s'est pas roulé par terre, on n'a pas hurlé. On n'a pas eu de cris hystériques, vous connaissez aussi Philippe, peut-être plus Philippe, non. Mais en tout cas, c'était très calme. Mais c'était tellement calme que j'ai dû dire à Philippe après que j'avais besoin d'avoir une heure pour moi tout seul, tellement que j'ai été chamboulé par la présence même de Dieu. Et pour moi, ça, c'était vraiment très fort. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai su que Dieu serait à mes côtés. Je ne savais pas comment l'opération allait se faire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments de doute et de peur. Ma fille et ma femme qui est là, ils le savent. Mais je savais que Dieu était et sera avec moi.
Et donc, qu'est-ce que tu peux en tirer comme enseignement pour édifier l'Église ?
On a discuté ensemble et ça avait du sens de pouvoir le partager aussi ce matin dans la communauté, parce que je pense que ce qu'on a vécu, toi Joanne et avec toi Philippe, ça ne doit pas être une exception. Je sais que déjà plusieurs personnes ont demandé l'onction d'huile et on doit vraiment vous encourager à pouvoir faire ce pas, c'est un pas de foi. Et en même temps, on ne doit pas en faire une généralité. Et j'insiste aussi là-dessus, parce que quand on parle de guérison, quand on parle de prière pour les malades, personnellement, dans notre famille, je sais que parmi vous aussi, pas tout le monde a été exaucé par une guérison. Et je pense que c'est un sujet hyper important, hyper sensible, et en tant que médecin, je le suis certainement aussi. Et donc, je mets aussi des guillemets par rapport à ça. Mais donc, on ne peut pas faire des exceptions, on n'est pas des exceptions, mais on ne doit pas en faire des généralités. Et c'est pour ça que je pense que c'était important. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a eu ce temps d'onction d'huile, après on s'est séparés, on n'est pas revenu sur ce sujet. Jusqu'à un moment où j'ai pu en parler un peu avec Philippe et avec Johan. Et à ma grande surprise, Johan, j'ai senti que tu étais ému pendant ce moment, mais je n'ai pas su ce qu'il y avait vraiment en toi. Donc, est-ce que tu serais d'accord de nous dire aussi comment toi, tu as vécu ce moment?
Oui. Alors, c'est vrai que, un peu comme Philippe, c'est un passage que je connaissais dans la Bible, mais de mes origines, enfin, les églises d'où je venais, ce n'était pas du tout pratiqué. En tout cas, pas que je m'en souvienne ou que je l'ai vu. Donc, je ne savais pas trop quoi m'attendre quand Philippe m'a dit « Oui, Santosh, j'aimerais bien que ça soit avec toi. » Alors, la première chose, c'est que je me suis dit « Zut, je deviens un ancien. » Enfin, j'en suis un, mais je ne le voyais pas comme ça. J'ai perdu encore des cheveux. Mais voilà, donc déjà, qui suis-je pour y assister? Et puis, voilà, j'ai échangé un petit peu avec Philippe pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et puis, le jour même, effectivement, je ne m'attendais à rien de particulier, plus là pour t'accompagner, être là dans ce moment qui était effectivement très intime. Et c'est vrai que j'ai senti, je n'ai pas pu l'exprimer tout de suite, ou un petit peu parce qu'on voyait que j'étais ému quand j'ai pu parler, mais il m'a fallu du temps pour essayer d'y mettre des mots. Il y a effectivement cette notion de communion et d'intimité avec un frère en Christ qui est très étrange en fait, parce que c'est une intimité qui n'est pas la même chose qu'avec des frères et sœurs de sang. Et puis, il y a eu une sensation aussi de prendre conscience du rôle d'ancien ou de conseiller, et comme si, pour moi, je fais ce service comme un vrai service. Et j'ai eu la sensation d'être honoré par Dieu, qui m'a passablement ému, en fait, de me dire que je peux aussi avoir une autre fonction, et puis d'accompagner un frère. Et j'ai vraiment, pendant ce moment, été une émotion qui est une sérénité et une plénitude. Et après, quand on s'est quitté, je pense qu'on était tous un petit peu frappés de ce moment-là. Et c'était le matin, donc après, j'allais au travail. Hein. Et j'étais dans la voiture avec une plénitude et une sérénité. Et je me suis dit, mais là, maintenant, je vais aller au travail. Il y a un gap énorme entre ce que je viens de vivre et ce que je vais vivre après au travail. Mais j'ai senti cette présence de Dieu et cette sérénité. Et j'ai l'impression qu'elle rejoint la sérénité que tu as eue aussi, toi. Et à vivre, c'était fort. Pour moi, c'était un moment où on voit ce que Dieu peut faire dans les cœurs et amener cette sérénité. Donc c'est vraiment quelque chose que, on va dire, j'ai expérimenté. Je ne dis pas que j'ai jamais eu la présence de Dieu, mais là c'était vraiment un sentiment de plénitude. Je dirais une relation horizontale et aussi une relation verticale avec Dieu. Donc cette notion de communion fraternelle, mais aussi de communion avec Dieu.
Merci Johan, merci aussi d'avoir été présent. Et pratiquement, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, président du Conseil, ce que tu as vécu pour la suite?
Je pense que, comme tu l'as dit, faut pas laisser de côté cet acte-là, qui est quelque chose qui se vit dans l'intimité. C'est quelque chose que j'ai envie de recommander. Mais toujours dans cette attitude, ce qui m'a rassuré aussi, c'est ce que tu as pu dire sur le moment, que tu venais pas pour attendre une guérison. Et ça m'a rassuré. Parce que, comme toi, je ne veux pas dire que je suis sceptique, mais il peut y avoir des guérisons comme il ne peut pas y en avoir. Mais avant tout, dans notre vie, Dieu nous aide à traverser les difficultés. On a tous des difficultés à différents niveaux. Et Dieu est là pour nous apporter sa sérénité. Donc, voilà, j'ai envie en tout cas d'encourager les personnes à pouvoir le faire dans cette attitude-là pour trouver la sérénité et la paix avec Dieu.
Merci.
Je vous invite à rester avec moi, Santosh, Johan. On va maintenant tenter de répondre au Slido. Je te laisse la parole, Philippe, pour
Merci.
Mener ce moment.
Donc, on ouvre ce temps de Slido. Il y a déjà quatre très bonnes questions. Alors, je rappelle juste le principe du Slido. Hein. On n'est pas dans la prédication, on n'est pas dans l'étude biblique, on est devant des questions dont nous prenons connaissance en même temps que vous. Donc, merci pour votre bienveillance. On tente des réponses, mais on n'est pas devant une prédication d'autorité, mais plutôt dans un dialogue et la possibilité, encore une fois, de vous donner la parole. On trouve que c'est important dans les cultes de maintenir cet espace. En tout cas, quatre questions. Pourquoi Jésus n'a pas fait d'onction d'huile et que cela n'apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament? Je tente une réponse. Quelqu'un veut le faire?
Vas-y.
Alors, encore une fois, la notion d'onction, y compris d'onction d'huile, apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament et dans les Évangiles. Plusieurs fois. Ne serait-ce que sur la personne de Jésus, qui est oint d'huile par cette femme, vous vous rappelez, hein, qui casse son vase de parfum d'un très grand prix et puis qui le renverse sur la tête de Jésus. Et puis tous les disciples sont là. Non, mais ça ne va pas, c'est les économies d'une vie. Ben oui, mais parce que Jésus mérite tout, elle le fait. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus, c'est qui? Alors, on va dire c'est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a comme grande autre appellation? Jésus, c'est le Messie, ce qui veut dire le oint, le choisi. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il est lui-même l'huile qui bénit. Quand il est là, c'est ce qui se passe. Il soigne, il relève, il interpelle, il console, il rétablit, il le fait. Et puis, la Pentecôte, l'ascension avant, il n'est plus là. Mais il est au milieu de nous par son esprit. Et je pense qu'il nous est demandé dans le texte de Jacques 5 de prolonger au nom du Seigneur ce qu'il a commencé de faire dans les évangiles et qui mènera à son terme à la fin de toute chose. Est-ce qu'il faut une huile spéciale pour l'onction? Quelle marque on a pris, nous? Vous vous rappelez?
Dans le camp de la Drôme, c'était l'huile qu'il y avait en cuisine. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'en préparant ce culte, j'ai été regardée sur Internet. Et puis, bien sûr, il y en a qui s'en saisissent hein, pour vendre de l'huile bénite. Personnellement, j'aurais envie de répondre. Je ne crois pas tellement que ce soit la marque ni l'huile, mais c'est plutôt le geste.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours mon petit pot hein, d'huile. C'est de l'huile d'olive de bonne qualité, parce que j'aime bien l'huile d'olive de bonne qualité, mais elle n'est pas bénite, elle n'est pas magique. Donc non, il ne faut pas une huile spéciale pour faire une onction d'huile. Et je pense qu'on pourrait le faire avec n'importe quelle autre huile, y compris n'importe quel autre liquide. Et je fais le lien avec une autre question. Est-ce que l'onction d'huile a plus de puissance, valeur que le jeûne? C'est une bonne question. Je m'y attendais un peu. Je vais tenter une réponse. Dans l'onction d'huile, comme dans le jeûne ou la prière, la puissance n'est pas dans le vecteur. La puissance, elle est à Dieu. D'accord? Ce n'est pas la puissance de ma prière qui l'a fait aboutir. Ce n'est pas la répétition des mots qui fait aboutir ma prière. C'est la fidélité de Dieu. La puissance, elle n'est pas dans cette huile d'olive. Elle n'est même pas dans le geste et la force que j'y mets. La puissance, si elle existe, elle est à Dieu. Que ta volonté soit faite, une prière qui nous engage. Hein. La prière, elle n'est pas dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans la répétition des mots, choisis ou pas. Elle est dans la personne de Dieu.
Est-ce que j'ose Je trouve aussi qu'il y a dans l'attitude, tu l'as dit, je pense que c'est l'attitude de la personne, qu'elle soit dans le jeûne ou pour l'onction d'huile, c'est ça qui est important. C'est l'attitude avec laquelle on arrive. Voilà.
Moi, je rajouterais juste quelque chose. Je pense que c'est le jeûne et l'onction d'huile, ça touche le corps. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a une sorte de lâcher prise aussi. Quand vous jeûnez, vous devez lâcher prise. Quand vous demandez l'onction d'huile, c'est un lâcher prise. C'est assez humiliant. Hein, je veux dire, moi, je préférerais à tout choisir avoir la position de Joanne à l'époque de prier pour que de recevoir. Et puis de confesser avant. Il y a quelque chose où on doit lâcher prise et ça fait tellement du bien. Surtout dans ce monde où l'orgueil est tellement mis en avant. Se dire, mais lâcher prise. Et pour moi, le jeûne aussi, il y a quelque chose de l'ordre de se lâcher prise où on peut vraiment, comme je l'ai dit, c'est une occasion de se remettre en question devant Dieu. Et voilà, donc je trouve que cette question, elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui est incarné et ça nous aide. En tout cas, moi, ça m'aide aussi à pouvoir lever les yeux vers Dieu.
Il y a une dernière question qui fait le lien aussi, je trouve, avec ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Pourquoi ne pas faire d'onction d'huile en communauté ? Un petit peu pour ce que vous avez raconté. Il y a quelque chose d'intime, on se dévoile, on se met à nu. Peut-être qu'on confesse des péchés, puis il y a des péchés qui sont des fois durs à confesser. Et pas, je ne vise pas seulement ce qui peut se passer sur le plan des péchés sexuels, hein. Colères qui sont enfouies, qui pourraient nous amener à vouloir prendre la vie de quelqu'un, notre jalousie. Moi, je crois que ces choses, elles doivent pouvoir s'exprimer à quelques-uns en toute sécurité, peut-être pas en streaming non plus, ni sur des vidéos qui restent après sur notre site internet. Mais quand on est quelques-uns, le conseil, quelques amis rassemblés pour une onction d'huile, on fait communauté. On ne va pas l'exclure des temps communautaires, même comme ce matin. Mais la priorité, à mon sens, par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans ces onctions d'huile, il faut pouvoir le faire en milieu sécure, en pouvant être surpris, dépassé, submergé, et pouvoir vivre ces moments en toute vérité, comme vous l'avez fait, mes amis, y compris en étant tout enfant.
Et c'est vrai qu'il y a aussi des rites comme le baptême ou la Sainte Cène qu'on va prendre maintenant où c'est communautaire et c'est même encouragé à partager les uns avec les autres. Donc je fais ma petite transition.
Merci.
Merci. On va vivre un moment de cène, de Sainte Cène ensemble. Je vais lire l'institution de la scène dans Luc 22, les versets 14 à 20. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres. Donc là, il est en communauté avec ses amis. Et il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir ?» Car, je vous le déclare, je ne prendrai plus ce repas jusqu'à la venue du règne de Dieu. Prenez cette coupe, donc il prend la coupe et il remercie Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu. Il le partagea et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et avec la coupe, il dit, « Ceci est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Alors je vous invite à prendre part à ce repas. C'est un moment où on peut se recueillir silencieusement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager votre prière de manière communautaire pendant ce moment. Avec la coupe pour ceux qui le souhaitent.
vivant encore aujourd'hui, qui nous entend, qui nous écoute, qui nous dit qu'on peut tout te dire, tout te demander, qui continue de nous bénir. Et Seigneur, c'est un tellement grand privilège que j'aimerais vraiment te dire merci. Mais Seigneur, donne-moi aussi un cœur prêt à te dire que ta volonté soit faite. Que je sois dans l'humilité d'accepter que ta volonté est bonne, agréable à Dieu et parfaite. Seigneur, sois béni, honoré dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci Seigneur que nous pouvons venir à toi à chaque instant. Tu as besoin de prendre un rendez-vous. Tu as besoin d'avoir une agence avec toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour nous écouter, nous encourager. Alors, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es ce qui donne ta paix, ta sérénité, ta. Seigneur, tu es Dieu. Avec toi, oh Seigneur, nous devons venir avec un cœur ouvert, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, quand on dit que ta volonté soit faite, il faut le dire avec légèreté. Seigneur, moi, je te loue et je te rends grâce. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rejoins, que ce soit par la prière, que ce soit par l'onction de l'huile, le jeûne, ou la sincère, ou de la communauté aussi. Merci parce que à tout moment tu nous rejoins. Seigneur, nous voulons vraiment faire ta volonté. Seigneur, au travers de ces passerelles que tu as pour chacun d'entre nous, nous pouvons te rencontrer et faire ta volonté. Alors, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, Seigneur, que tu puisses guider, que tu puisses nous inspirer aussi, Seigneur, et de vraiment pouvoir te louer. Merci pour toutes ces passerelles que tu dresses pour nous et avec nous.
Oui, Seigneur, merci parce que tu nous rejoins là où nous sommes et que tu veux déverser ton amour sur nous. Mais qu'il y a aussi une part d'engagement où c'est à nous de faire la demande. Merci parce que tu nous relèves. Amen. Avant de passer un moment d'offrande et de clore gentiment ce culte, j'aimerais vous présenter l'équipe prière qui est dans l'église. Parce qu'en fait, peut-être que ce culte ce matin fait résonner quelque chose en vous. On a vu l'importance aussi de prier les uns pour les autres, l'importance de ne pas rester seul, d'être accompagné. Alors peut-être que vous connaissez l'équipe prière, peut-être pas. Donc je vais leur demander de se lever, de me rejoindre juste pour que vous puissiez mettre des visages sur des noms. J'invite Zena Battisti à venir, Anne Paulet. Juste là, vous n'avez pas besoin de monter ni de faire un speech. Daniel Strubin aussi. On a aussi Jacques Kerdener, mais il est absent aujourd'hui, il est en vacances. On a Boris Cretigny et puis on a aussi Jean-Christophe Piguet. Voilà, donc je vous présente les personnes qui ont à cœur, en fait, de prier. Ils prient pour nous, ils prient aussi pour vous de manière individuelle. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Ils prennent volontiers un moment, il y a, je crois, à tous les cultes, hein, quelqu'un qui est là. Peut-être pas toute l'équipe en même temps, mais il y a tout le temps un membre de ce groupe. Et puis, on a des locaux incroyables dans l'église où on peut, en bas, par exemple, prendre un moment en toute intimité, en toute confidentialité, des moments pour prier. Donc voilà, ces personnes sont disponibles et heureuses de servir le Seigneur par ce don de la prière. Donc merci de votre disponibilité. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non? Merci. Et on va passer un moment d'offrande. Et puis, bien sûr, vu le thème de ce matin, j'avais très à cœur de choisir un dernier chant qui est le Notre Père. Cette prière que Jésus nous a enseignée et que, on l'a entendue, elle est assez puissante. Et puis, C'est une prière vers laquelle on peut tendre. Hein. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ta volonté soit faite. Et c'est dit. Jésus nous apprend à le dire, nous apprend à cheminer avec cette phrase. Alors, on va passer avec l'offrande. C'est aussi une manière de bénir l'Église que d'offrir en retour financièrement. Et puis voilà, merci au groupe Louange qui nous accompagne. Oh, je vous laisse.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Seigneur, merci pour cette offrande et que ta volonté soit faite avec, pour notre Église, pour la bonne marche. Merci pour ta générosité dans nos vies et pour celle qu'on peut te rendre, te redonner. Amen. Alors, j'invite Thierry à me rejoindre pour une annonce, je crois, une ou deux. Micro. Je voulais.
Bon, celui-là, ça va? Merci. Je vais vite. Il y en a trois. Alors, première annonce, prochain repas communautaire le 31 mai. Donc, notez la date. Ça sera un repas canadien, un peu qu'on a beaucoup fait par le passé. Hein. Chacun amène quelque chose, on met tout en commun et puis on partage. Et puis, petit ajout par rapport à ce qui se faisait avant, on aimerait avoir une discussion autour du thème de la prière communautaire ce jour-là pendant le repas. On le fera sûrement ici, on mettra les tables, on les arrangera de manière à ce qu'on puisse discuter. Et puis voilà, on va manger, mais aussi partager, débattre autour de ce thème de la prière communautaire. Donc, s'il vous plaît, venez nombreux, Sinon, là, on va manquer votre voix dans la discussion. Le nouveau programme papier est là. Vous pouvez vous servir à l'entrée. Et puis, finalement, il y a aussi l'offrande de printemps pour la FRE, la Fédération romande des églises évangéliques, qui est là. Je vous donne pas trop de détails comme ça, mais il y a des flyers qui sont à la sortie. J'ai aussi mis la même affiche sur l'écran. Vous pouvez venir vers moi aussi si vous avez des questions par rapport à ça. Une à deux fois par année, il y a une offrande qui est proposée pour la FRE. Cette fois-là, c'est pour soutenir les pasteurs dans leur suivi. Eux aussi ont parfois besoin d'être suivis. Il y a des défis, des difficultés. Et puis, c'est pour les soutenir aussi financièrement par rapport à ça. Mais voilà, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre ce qu'il faut à la sortie. Voilà, merci beaucoup.
Ah oui, Mathieu, oui, pardon.
Je vous vole encore 2 minutes. Après, je vais partir promis. Depuis la construction de ce bâtiment, il y a une vingtaine d'années, nous, l'Assemblée, on s'occupe nous-mêmes des nettoyages. Alors, ce n'est pas parce qu'on est trop radin pour embaucher un professionnel pour le faire, mais c'est parce qu'on croit profondément que le service à Dieu et à la communauté, ça commence par le fait d'imiter Christ. Et pour continuer un petit peu l'histoire de la Sainte Cène, le soir du dernier repas, Jésus il s'est levé de sa place et il a lavé les pieds de ses disciples. Et il leur a dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est dans Jean 13. Alors, voilà un petit peu la raison pour laquelle on fait ça nous-mêmes. On se met aussi au service des autres, on fait ce sacrifice d'humilité et de temps, et on lave le sol, les pieds assez littéralement. Ce qui est une façon des plus concrètes, voilà, de se laver les pieds les uns aux autres. Notre service commence par là. Je ne sais pas si, peut-être demander à Joanne, est-ce que tu veux partager un petit... Joanne fait partie d'une équipe de nettoyage. Et... Aussi.
C'est tout récent. Hein. C'est vrai que j'aime pas être pris dans un système qui fait qu'on est obligé, puis on ne sait pas combien de fois on va devoir faire. J'aime bien le côté d'être libre, puis de venir avec plaisir. Mais bon, quand c'est Mathieu qui demande, on se dit que vu tous les efforts qu'il a fait de faire du porte-à-porte pour trouver du monde, c'est important d'y répondre. Alors nous, on le fait un peu en famille, hein, on doit avouer. Mais il y a aussi Michaela et Sonia dans le groupe, et ça, c'est vraiment chouette. Finalement, c'est assez court. Du moment que chacun a trouvé ce qu'il faisait, moi, je ne m'occupe pas des toilettes, comme ça, c'est... Non, c'est toute la grande salle ici, typiquement. Mais c'est pas pour ça, mais c'est surtout que c'est après une journée de travail, en fait, ça fait du bien. Étonnamment, ça vide un peu l'esprit. Ça fait du bien. Et puis finalement, c'est assez court quand on est 4 ou 5. Ça va assez vite. Donc j'encourage en tout cas à se lancer, tester. Et puis surtout quand il y a des bons potes à côté de vous ou votre famille, c'est vraiment chouette.
Merci Joanne. Donc je vous rassure, du coup, ce n'est pas un engagement qui est titanesque ni un engagement à vie. On est actuellement 70 personnes à assurer ce service en tournus, ce qui veut dire que chaque groupe intervient environ 3 fois par année, entre le mercredi et le samedi, à l'horaire qui vous convient. Et à 4 personnes, ça prend environ 1 heure si vous êtes efficace, 2 heures si vous êtes maniaque, 3 heures si vous buvez une bière après, pour les personnes qui aiment bien la convivialité. Et je cherche aujourd'hui 5 à 7 personnes de plus pour renflouer les équipes et permettre aux personnes de plus de 75 ans de prendre une retraite du balai bien méritée. Donc, vous pouvez rejoindre un groupe existant, en fonder un nouveau, vous organisez en famille ou entre amis ensemble. Et voilà, si vous êtes partant, venez me voir à la fin du culte. Puis, comme Joanne l'a dit, si jamais, je ferai du porte-à-porte. Merci.
Merci. Alors, je vous invite à vous lever pour ce moment de bénédiction. Lorsqu'on préparait ce culte, on a eu des moments de préparation avec Joanne et Santoche et Philippe. Et J'ai été touchée par Joanne qui disait que suite à ce moment d'onction d'huile, il a parlé de cette plénitude et de cette sérénité, puis il disait « j'ai senti la gloire de Dieu », qu'il y avait quelque chose d'un rayonnement où il se sentait rayonnant en sortant. Et puis du coup, ça m'a inspirée pour ce moment de bénédiction où dans la Bible, le Seigneur s'adresse à Moïse et puis demande à Moïse de bénir avec Aaron les Israélites. C'est dans le livre des Nombres. Et c'est la prière que j'ai pour vous maintenant et pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Alors voilà, que cette prière soit la vôtre durant cette semaine. Et puis je vous souhaite un bon dimanche.